Bonjour à tous, bienvenue à cette première édition, je dirais, de l'Afrique contre-attaque. On a eu l'épisode 0 la fois passée. Maintenant, nous passons à l'épisode 1. Et tenez-vous bien accrochés vos ceintures parce qu'on va décoller. Alors, le thème d'aujourd'hui ou le titre, c'est Les bâtisseurs des pyramides, qui étaient-ils? Il y a quelques semaines ou quelques mois, il y a un documentaire qui a fait sensation sur YouTube, intitulé La Grande Pyramide K2019, où on montrait des théories selon laquelle les pyramides auraient été bâties avec une technologie qui a rapport à la chimie et même à la fusion, où des lentilles solaires auraient été utilisées. Mais bon, ce sont des spéculations. Mais là où la science peut vraiment attester, dire les choses telles qu'elles sont, c'est que le documentaire décrivait aussi, avec des animations très pédagogiques, que en fait les premiers bâtisseurs étaient des Noirs africains. Et vous pouvez imaginer la réaction de beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, nous n'allons pas trop polémiquer là-dessus, mais on va apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'il faut bien construire. Jeu de mots facile. Alors, j'apporterai donc ma pierre moulée à cet édifice, car le film en fait dit que la Grande Pyramide a été faite avec des pierres moulées et non pas des pierres taillées. Ce que je suis en partie d'accord, beaucoup de pierres ont été moulées, mais certaines ont été aussi taillées, certaines en tout cas, pas toutes, mais peut-être certaines. Donc nous allons parler un peu de tout ça aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a à voir avec l'Afrique? Qu'avons-nous à faire avec la Grande Pyramide? Au moment où certains diraient que mais l'Afrique on ne construit pas, comment ça pouvait être des Noirs africains? Eh ben aujourd'hui on va apporter des éléments scientifiques qui vont un peu nous plonger dans cette réalité africaine. Donc, accrochez-vous bien, prenez le pop-corn si vous en avez, calez-vous bien sur votre siège parce que je vous lance dans un voyage épique dans l'Afrique ancienne et nous allons enfin comprendre qui étaient ces bâtisseurs et nous allons le faire de manière scientifique. Donc, nous allons plonger dans cet univers de la manière suivante. Le chantier de la Grande Pyramide reste un tour de force magistral dans l'histoire de la logistique. Ça, il faut se le dire. De l'architecture et de l'ingénierie. Ces anciens Égyptiens avaient des cerveaux puissants, certes, oui, mais les anciens Égyptiens avaient aussi un physique digne d'une machine à record, parce que la prouesse qu'ils ont pu accomplir en faisant cet édifice, et bah, jusqu'à présent, on se pose toujours la question, mais comment ils ont fait? Et les tentatives jusque-là font couler encore beaucoup d'encre pour comprendre comment ils ont fait. Donc, aux prouesses techniques qu'ils ont. Les capacités physiques de ces bâtisseurs impressionnent. Mais qui étaient-ils? C'est ça la question qu'on se pose. Qui étaient réellement ces bâtisseurs? Il y en a qui veulent les faire venir du Moyen-Orient, il y en a qui pensent que ce sont des extraterrestres, mais en réalité, qui étaient ces grands bâtisseurs qui, au fait, en réalité, venaient de la région des Grands Lacs? Nous l'avons vu dans le podcast précédent. Pour compléter le podcast précédent, j'aimerais dire que nous avons parlé du porc-épic, du hérisson, qui est un symbole fort puissant dans la culture africaine. J'ai montré que c'est le mythe fondateur, Mboka, Mboke, qui met ensemble les gens, les épines du porc-épic, qui sont en fait le mythe fondateur selon lequel le chasseur va vaincre le léopard, il va prendre sa peau, il va devenir un roi léopard. Voilà pourquoi les rois ont la peau de léopard et les chefs de coutumiers en Afrique. Eh bien, la même idée est aussi en Égypte ancienne, parce que c'est une idée qui vient de là, de Kouch, du Soudan, de ceux qui sont en fait partis. En fait, un cycle qui s'est passé. Ils sont partis de la région des Grands Lacs du Congo, ils sont montés et puis ils sont revenus là où ils étaient avant pour se disperser encore en Afrique centrale. Donc, je parlais du porc épic, du hérisson. Eh bien, il faudrait savoir que dans la graphie, pour écrire l'ancienne Égypte, qu'on appelait Kemet, qui signifie en fait le pays noir ou le pays de la population noire. Beaucoup de gens disent que c'est à cause de la couleur du sol, mais ce n'est pas cohérent parce que le déterminatif urbain et de la population est placé dans la graphie, c'est-à-dire dans le hiéroglyphe qui parle de l'Égypte ancienne. Alors, cela fait débat parmi les graphies. Je crois qu'il y en a quatre ou cinq, quatre ou trois, entre trois et quatre dessins comme ça qui représentent le nom de l'Égypte. Donc quatre images parce qu'eux utilisaient des symboles pour définir leurs mots. Ça pouvait être un animal, ça pouvait être une partie du corps ou autre chose, ou un objet comme un pot. Alors, dans la graphie de l'Égypte ancienne, il y a un symbole énigmatique pour certains qui se définirait par. Il y a trois écoles. Enfin, il y en a qui pensent que c'est la peau d'un crocodile, il y en a qui pensent que c'est un morceau de charbon, et il y en a qui pensent que c'est le dos du hérisson ou du porc épic. Eh bien, les trois idées, en fait, quand on analyse bien, parce que quand on connaît la pensée symbolique, eh bien, revient à la même chose, à la même idée centrale. Parce que lorsqu'on parle d'écailles, de peau de crocodile, quand on pense à la peau du porc éric, eh bien, on voit bien que ce sont des fanères. Les fanères, en fait, sont des productions tégumentaires, comme les plumes. Vous voyez, les plumes ou les épines ou les écailles sont des productions tégumentaires des animaux, ce qu'on appelle des fanères. Alors, on est toujours dans l'idée de fédérer des éléments ensemble. Que vous ayez la peau de crocodile ou que vous ayez la peau du porc épic, c'est toujours des fanères qui sont mises ensemble. Ça montre l'idée d'unité. Donc, unis, nous sommes une population, nous sommes un. Et c'est voilà pourquoi ce déterminatif est dans la graphie de Kemet du pays noir. Alors, quand on voit ce mot-là, que ce soit même le charbon qui est noir, eh bien, ça revient justement à la population noire qui était en place. Car le mot Kemet, Kem, Kum, Kom sont les mots qui, en Afrique ancienne, ou même maintenant dans la langue que nous parlons, ou dans l'ancien hébreu, sont toujours des mots qui reviennent à dire ce qui est noir. Voilà pourquoi vous verrez le fils de Noé qui est Kam ou Ham, qui renvoie à la population noire. C'est un mot qui revient, qui veut dire non simplement la couleur, mais aussi la plénitude. J'ouvre une petite parenthèse. Voilà pourquoi quand on dit Abraham, c'est l'idée de la plénitude. Je reviendrai là-dessus. Je n'entre pas là, sinon on va y aller encore dans une autre dimension. Donc, on reviendra sur tous ces sujets. Donc, c'est tout un univers qu'on va explorer. C'est tout un univers qui est infini que nous allons explorer ici. Donc, le mot Sham, le mot Ham, Kam, revient à la couleur de la peau, Kem, et nous verrons plus tard que ça revient. Ça nous a donné le mot chemistry, par exemple. Car il y a un auteur, et je donnerai le nom tout à l'heure ou dans un prochain podcast, qui avait dit réellement qu'au fait, les anciens Égyptiens avaient inventé la chimie et que c'est eux qui savaient comment faire des pierres moulées à partir de certains éléments. Donc, mais nous y reviendrons beaucoup plus tard. Mais sachez que le nom chimie vient de Kemet, hein, alchimie, parce que le chimie vient de alchimie. Chimie vient de Kem, c'est vient du nom de l'Égypte ancienne. Ça, pourquoi? Parce que quand les Arabes étaient arrivés là, ces alchimistes-là qui utilisaient qui étaient dans ces sciences-là, eh ben, se sont inspirés de ce qui se passait déjà en Égypte pour créer l'alchimie, alchimie en anglais. Et ensuite, c'est dérivé en chimie. Donc, le mot est d'origine africaine, noire africaine. Donc, c'est dans ce creuset-là, de cette graphie-là, eh bien, qu'on voit le nom de l'Égypte et la symbolique du hérisson ou du porc épic. Donc, ce même nom-là qui a servi à écrire Kemet, à écrire le nom de l'Égypte, eh bien, c'est ce même symbole-là qui, aujourd'hui encore, a inspiré, ou dans un passé récent, qui a inspiré à créer les royaumes africains. Hein, parce que quand on voit la graphie du porc épic, on a bien dit qu'en Lingala, ça signifie Mboke, qui nous a donné Mboka, donc le pays. Donc, cette image du porc épic là donne l'image du pays, de ceux qui se mettent ensemble, qui sont invulnérables ensemble et personne ne peut les attaquer. Pas même le léopard qui est l'image justement de l'ennemi ou de l'obstacle. Et lorsqu'on on va battre l'ennemi, eh bien, on va se revêtir de la peau pour dire qu'on est digne, qu'on a passé l'étape de l'initiation. Même idée en Égypte. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prêtres égyptiens ou même de pharaons qui portent des peaux de léopard dans leur civilisation. Nous avons parlé dans le podcast précédent du fait que le symbole de la science même qui est né en Afrique centrale, au Congo et en Afrique du Sud, eh ben, on les plaçait sur des peaux de babouins. Sur les os de babouins. Et nous avons vu que c'est probablement des femmes qui s'est donné à ces pratiques-là parce que les suites de chiffres montrent que ce sont comme des cycles lunaires que l'on calcule. Or, dans la culture égyptienne, il y a aussi une déesse qu'on appelle Sechat. Sechat qui est l'équivalent de Thoth qui est le dieu de la sagesse et de la connaissance, parce qu'il a qui est représenté par un babouin. Eh ben, Sechat, et soit, selon les littératures, soit la fille de Thoth, soit la femme de Thoth, ou sa sœur même parfois. Donc, elle est toujours apparentée à la science. Donc, vous voyez que très, très tôt, dans la culture égyptienne, africaine, et on voit bien que c'est une femme noire, l'idée de la femme qui crée, qui invente, qui fait les mathématiques, qui est astronome, qui est architecte, est ancrée dans l'histoire. Ce n'est pas comme dans certaines autres civilisations que nous nommerons pas, où au contraire l'image de la femme est reléguée au second plan et où la femme n'avait pas accès à la science. Mais en Afrique, c'est très tôt que l'image de la femme est portée haut au niveau de la science, au niveau de la connaissance, au niveau de la sagesse. Donc l'image du porc épic, l'image du hérisson, l'image de ce dos-là, qui est le symbole unificateur Mboke, Mboka en Afrique centrale, eh ben, est le même en Égypte où on a cette peau-là qui entre même dans la graphie de l'Égypte ancienne pour marquer le territoire, pour marquer l'union, pour marquer les deux terres, car il y avait une grande guerre entre Narmer et les habitants du nord, c'est-à-dire le sud, le pharaon qui venait du sud et ceux du nord, et déjà même le mot pharaon veut dire en réalité celui qui vient du sud. Eh bien, cette guerre-là avait fait en sorte que les deux avait fait la paix ensuite, Narmer avait gagné contre le Nord, il a rassemblé les deux pays, et on appelait ça justement la Tamérie, la bien-aimée, hein, les deux terres, et le pharaon devient le souverain des deux terres. Et voilà pourquoi, par exemple, il y a deux symboles sur le front, le serpent et le vautour, parce que le serpent c'est le symbole du Nord, et le vautour c'est le symbole du Sud. Nous y reviendrons encore plus en détail, mais je voulais juste mettre encore compléter cette parenthèse-là sur le mythe fondateur de l'Afrique, le mythe fondateur de l'Égypte, le mythe fondateur des royaumes d'Afrique centrale. Alors, nous revenons à la Grande Pyramide. On est en train de s'étonner sur les génies de ces bâtisseurs et de leurs origines. Mais nous savons que cette pyramide a été bâtie par qui ? Elle a été bâtie par un pharaon qu'on appelle Khufu, K-U-F-U, que d'autres, les Grecs, ont appelé Khéops. Mais nous devons revenir à la nomenclature africaine, Khufu, car on sait que ce nom Khufu est même caractéristique toujours des populations africaines et d'Afrique centrale. Parce qu'on sait que le nom Khufu existe toujours dans la région du Congo, de la RDC par exemple. Il existe un ruisseau dont le nom est Khufu, au niveau du Bas-Congo, si je ne m'abuse, ou le Congo central, comme c'est appelé maintenant. Alors, exactement comme le pharaon de la Grande Pyramide. Alors, il faudrait savoir que, en linguistique, les lettres F et V sont ce qu'on appelle des labiodentales, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées en joignant les dents et les lèvres. Vous savez, quand vous faites V, vous joignez vos dents et vos lèvres. C'est là ce qu'on appelle des labiodentales. Alors, le nom du pharaon Khufu, bâtisseur de la Grande Pyramide, devient donc Nkouvu. Vous voyez, Khufu, Nkouvu. Vous voyez. Et donc le F là, le F qu'on a Khufu peut devenir Khufu, peut devenir Khufu. Et très souvent, vous savez que dans les langues africaines, devant le K, on arrive parfois les N. Hein? Par exemple, on peut dire Kananga un Kananga, Kananga un Kananga. Et ici, on a Khufu peut devenir facilement Khufu. Donc F et V, ce sont des labiodentales, elles sont interchangeables parce qu'on les prononce un peu de la même façon. Donc Khufu peut devenir Nkouvu, Khufu ou Nkouvu. Alors, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du Congo, eh bien vous savez où je vais en venir. Donc le nom du pharaon Khufu, ou en réalité Nkouvu, bâtisseur de la Grande Pyramide, devient Nkouvu, comme le roi du royaume Congo, Nzinga Nkouvu. Nzinga Nkouvu, c'est un roi qu'on retrouve au niveau de la colonisation quand les soi-disant explorateurs, que moi j'appelle une bande de pirates, mais on le passe. Alors, c'était un des rois qui se manifestait, qui était là à ce présent. Mais c'était un nom qui est assez commun dans l'histoire, par exemple, du royaume Congo. J'insiste sur ce royaume parce que c'est là où on retrouve beaucoup de similarités avec l'Égypte ancienne, mais j'irai partout en Afrique pour montrer les liens avec beaucoup de pays, de régions africaines, car le site se veut panafricain, mais à la fin, ce podcast se veut humaniste. On est là pour rassembler les peuples, rassembler, pas diviser. Hein, comme on dit, faites l'amour et pas la guerre. Hein, mais qui veut la paix prépare la guerre. Donc il faut avoir les stratégies, comprendre ce qui est à la base des guerres et justement pour pouvoir amener l'antidote par rapport à ces guerres. Donc notre but est vraiment de rassembler les peuples, rassembler les cultures en montrant notre origine commune. Donc, et cela par la science et non pas simplement par des bons sentiments pour dire que voilà, les différences n'existent pas et devenant simplement une sorte de monolithe. Non, ce n'est pas du tout ce que l'on veut. On veut dire que la diversité est une richesse et dans cette diversité, nous pouvons travailler collectivement ensemble. Donc, nous disions donc que le nom du pharaon Khufu qui a créé la Grande Pyramide, qui veut dire en réalité, on le prononce en réalité Nkouvu, parce que ces noms que nous avons sont souvent faits par des égyptologues européens et ils les prononcent comme eux. Par exemple, les Grecs ont carrément changé en Khéops, ce qui est carrément différent de la vérité. Mais en prononçant correctement, c'est Nkouvu. Khufu, parce que le F deviendra V, donc Khufu. Et on retrouve ce nom, comme nous l'avons dit, au niveau du royaume Congo, parce qu'on a un roi qui s'appelle, ou des rois qui s'appelait Nzinga Nkouvu. Alors, en langue africaine, Nzinga est lié à Singa, c'est Singa, c'est la corde. Au mot tordre, par exemple, ou au mot encercler ou enrouler, c'est-à-dire au félin et à la rivière, donc au poisson-chat et son caractère insaisissable. Vous voyez? Donc, Nzinga, pourquoi? Parce que Nzinga donne le lion, ou Simba, par translittération. Vous voyez? Nzinga, ça veut dire, c'est par translittération, c'est-à-dire la manière dont on le prononce dans une autre langue, ça veut dire Nsimba. Or, Simba, par translittération. Et nous savons que Simba, je crois en Swahili, ça signifie le lion. Alors, le félin est encore évoqué ici comme Narmer ou Nimrod. Donc, vous voyez que ici, dans Nzinga Nkuvu, on a donc le lion avec Nzinga Nkuvu, le nom de ce pharaon-là. Alors, nous continuons en disant que le félin est encore évoqué ici comme Narmer et Nimrod. L'ancêtre mythique Congo s'appelle aussi Nzinga Nkuvu, nous l'avons dit. Le nom sera donné à d'autres rois du royaume aussi. Les peuples Congo ont pour origine mythique Nkuvu et sa fille Nzinga qui épousa Nimi. Donc vous voyez que ce roi-là justement de la colonisation a pris le nom de deux ancêtres mythiques Congo. Parce que dans le mythe Congo, il y a Congo qui est une tribu du royaume de la RDC. On a donc le monsieur s'appelait le roi s'appelait Nzinga Nkuvu. Or dans la mythologie des Congo, on a un personnage qui s'appelle Nkuvu qui a une fille qui s'appelle Nzinga. Donc le monsieur a pris le nom de la fille mythique et du père mythique. Donc, Miting Kuvu et sa fille Nzinga qui épousa Nimi. Nzinga alors épousa Nimi. Or, curieusement, Nimi évoque le lion dans les langues sémitiques. Nimi, ça signifie lion dans les langues sémitiques. Nzinga eut des jumeaux dans la mythologie, toujours dans la mythologie Congo. Nzinga eut des jumeaux, Nsimba et Nzuzi. Les deux noms rappellent le félin en Swahili, Simba et Shui. Donc, la pensée symbolique est maintenue ici. Donc, vous voyez bien que non, c'est la même pensée symbolique. Vous voyez que non, dans les noms qui suivent ces différentes générations d'ancêtres Congo ont des noms qui renvoient au félin. Pourquoi? Parce qu'on a dit que le félin, c'est ce qui renvoie au poisson-chat qu'il faut vaincre. Le poisson-chat qui nous ramène à Narmer, le premier roi. Et voilà pourquoi il y a toujours les chefs portent toujours la tunique de léopard. Parce que lion, léopard, vous voyez, sont des félins. Donc, c'est toujours la même idée qui se présente. Et les lions, les félins sont des symboles aussi qu'on a érigés dans la mythologie égyptienne, par exemple, parce que lorsqu'on a le soleil, dans la mythologie égyptienne, il y a deux lions qui gardent le soleil. Ou encore dans la mythologie égyptienne, on a le dieu Khnum devant l'arbre à côté de l'arbre de vie, et ce léopard-là coupe la tête d'un serpent. Je crois que pour certaines personnes, ça leur rappelle quelque chose. Nous y reviendrons. Pas aujourd'hui, mais nous y reviendrons en détail. Beaucoup de gens ont compris déjà beaucoup de gens savent à quoi ça leur fait penser. Ça nous rappelle quelque chose. Je crois que tout le monde, ça nous rappelle quelque chose. Mais on y reviendra pas aujourd'hui, parce que sinon, ça sortirait pas. Vous savez, c'est toute une galaxie, un univers qu'on est en train d'explorer ici, et c'est assez long. On va s'en tenir au constructeur des pyramides. C'est ici, c'est là où on veut aboutir. Mais nous continuons toujours lentement pour montrer le lien qu'il y a entre ces peuples-là de l'Antiquité et les peuples que nous avons toujours aujourd'hui, que nous voyons autour de nous. Alors, nous sommes arrêtés au niveau des ancêtres Congo et nous disons que l'image du soleil soutenue par deux lions à Caire en Égypte frappe les esprits, car en Égypte, il y a deux lions qui supportent un soleil, on les appelle à Caire. Donc ça frappe les esprits. Donc on voit que là, le mythe Congo et le mythe égyptien se rapprochent et sont similaires. Donc, nous continuons en disant que Nzinga ou Njinga s'enracine dans le préfixe Nzi, Nze ou Nji, ou encore Nji, c'est-à-dire N-J-I-I, ou Nji-N-J-I, qui donne panthère. Donc, vous voyez que ces mots-là ne sont pas choisis par hasard. Donc, Nzi, N-Z-I, N-Z-E, N-J-I, N-J-E-E, donne panthère chez les Bassa et les Fans du Gabon. Le suffixe Nga ou Ngo de Nzinga est autant significatif du félin. Ce roi portait-il donc des références à Khufu et à Narmer? C'est une possibilité. Vous voyez que le nom de Nzinga Nkuvu donc renvoie toujours au félin, renvoie toujours au lion, renvoie toujours surtout au léopard qui a été vaincu. Comment on va vaincre le léopard? C'est par les lances, c'est par les harpons. Le plus vieux harpon retrouvé en Afrique, c'est cette conjonction de harpons mis ensemble qui permet de faire la nation. Or, le symbole de ces harpons-là, c'est le porc épique, c'est le hérisson, c'est le soleil. Car comme le soleil, le porc épique, le hérisson se met en boule, et bien c'est l'image du soleil qui brille de ses rayons de mille feux. Vous voyez, c'est la symbolique du pouvoir, c'est la symbolique des mythes fondateurs africains. Donc tout ça a été fait de manière extrêmement précise. C'est de ces mythes-là que les peuples se mettent ensemble et combattent. Parce que les difficultés que nous avons maintenant, se disant tribalisme, nous ne sommes pas les mêmes. Les populations anciennes avaient déjà ces problèmes et ils avaient su les résoudre par ces concepts-là. Donc nous continuons ici avec les les symboliques liées au félin. Donc, le nom complet du pharaon Khoufou, hein, donc c'est-à-dire Khéops, est Khnoumkhnoufi. Donc, ça, c'est difficile à prononcer. C'est un peu Khnoumkhnoufi ou Khnoumkhoufou. Donc, avant le nom Khoufou, il avait un autre nom qui s'appelait aussi Khnoum. Donc, il y avait un nom composé qui s'appelait en fait Khnoumkhoufou. Khnoumkhoufou. Hein? Khnoumkhoufou. C'est un peu comme ça qu'on prononce. Khnoumkhoufou ou Khnoumkhoufou. Alors, ce qui équivaudrait à Khnoum me protège. Hein? Donc, Khnoum le protège. Voilà, donc, Khnoum, bien qu'on sait que Nzinga, c'est lié au félin, mais ça, c'est un nom qui était au niveau de l'Afrique centrale. Mais quand on remonte là-bas pour aller vers le Nil, hein, on dit Khnoumkhoufou. Hein? Donc, pour dire Khnoum me protège. Donc, ou Khnoum protège Khoufou, Nkouvou. Donc, Khnoum, qui est Khnoum? Khnoum est le divin potier. Khnoum est le divin potier qui agglomère l'argile pour former les êtres humains. Khnoum, curieusement, en Égypte ancienne, c'est un dieu qui avait une tête de bélier. Et dans leur mythologie, c'est un dieu qui façonnait les hommes avec de l'argile et qui faisait aussi des pots. Je crois que les gens commencent à se dire « Ah tiens, ça me rappelle quelque chose. » Et on sait que dans l'Antiquité, parce qu'on se dit, oh, wow, les anciens égyptiens, ils avaient un dieu qui avait une tête de bélier. Ah, non, mais ces gens étaient bizarres, ils n'étaient pas intelligents. On dit, ah bon. Pourquoi, dans un certain livre, les premières offrandes étaient toujours des agneaux qu'on devait donner, des agneaux de bélier? Pourquoi, quand on décrit un certain personnage dans un certain livre qu'on appelle Apocalypse, on nous dit que c'est un agneau avec beaucoup d'yeux? Or, on sait qu'on appelle certains Osiris, celui qui a beaucoup d'yeux. Je ferme la parenthèse, nous y reviendrons beaucoup, beaucoup plus tard, parce qu'on risque d'entrer encore dans un domaine où le puits ne se termine jamais. Donc, ne vous inquiétez pas, patience, restez avec nous, restons ensemble, et il y aura plein de podcasts qui viendront, et on va détailler tout ça en ligne, je vous rassure. Il y a du lourd, du très, très, très lourd qui arrive. Donc, mais continuons avec les bâtisseurs ici, parce que sinon on s'en sortirait pas. Alors, on dit donc que Khnoum, qui est un dieu avec une tête de bélier. Une autre parenthèse, je vous rappelle que même dans un certain livre, quand un certain prophète a une vision et qu'il voit des gens, les êtres divins qui viennent du royaume de Dieu, eh bien on dit qu'ils ont des têtes d'animaux et des corps d'hommes. Et on dit que parmi ces quatre-là, on dit qu'il y a un qui a une tête de vache, donc de bélier, pratiquement, une tête d'aigle, une tête de lion et une tête d'homme. Curieusement, dans la mythologie d'un certain empire africain, l'Égypte pour ne pas la citer, on voit que les divinités sont souvent représentées par des hommes à tête d'aigle, des hommes à tête de bélier, des hommes à tête humaine, comme Amon, et des hommes à tête de lion, comme Sekhmet. Bizarre, n'est-ce pas? Nous y reviendrons. Alors, on est donc ici, on dit donc que Khnoum, le divin potier, agglomère l'argile pour former les êtres humains. Les bases de la chimie furent posées et Imhotep s'en inspira pour bâtir la première des pyramides. Donc, comme nous l'avons dit, chimie vient du mot africain, donc kum, qui revient au nord, ce qui est carboné, ce qui est charbonné. On revient à la transmutation de la matière, parce que même quand on parle de tout ce qui est noir, tout ça, les anciens égyptiens n'étaient pas obsédés par la race, qu'ils étaient noirs, mais le problème c'est qu'ils s'étaient intéressés à ce qu'il y a derrière. Parce que, comme le dit un chercheur d'Imon Barimbok, ce qui est intéressant, c'est que quand on voit comment les Africains se comportent, ces civilisations noires-là, eh ben, on sait que dans chimie, par exemple, l'atome de carbone est tétravalent, n'est-ce pas? Qu'il est lié à quatre atomes, par exemple d'hydrogène. Quand on fait chimie organique, c'est le BABA. On sait que le carbone est tétravalent, il est toujours entouré de quatre autres molécules ou atomes, hein, pour remplir sa couche périphérique. Alors, eh ben, c'est la manière aussi dont les Africains se comportent, c'est-à-dire qu'on est toujours des anges sociaux, donc ça renvoie aussi aux hérissons, aux épines qui sont ensemble, aux écailles, à la peau de crocodile, hein, ce charbon-là. Hein, parce qu'on dit que il y a la polémique qui dit est-ce ce symbole, est-ce une peau de charbon, et pardon, est-ce un morceau de charbon, une peau de crocodile, ou le dos du porc épic? Eh bien, c'est tout à la fois, parce que ces trois symboles-là renvoient à la même chose, renvoient au carbone qui est entouré de quatre éléments et qui se lie. Voilà pourquoi les Africains sont toujours des gens sociaux, des groupes. Vous voyez les groupes de musique, il y en a très peu qui se lancent en solo, c'est toujours j'ai mon orchestre, j'ai mon groupe, et on est toujours ensemble, quand on est dehors, on est toujours ensemble. Donc là, on va un peu du côté de la philosophie, on va un peu très loin. Mais bon, on revient un peu à des choses un peu plus terre à terre, et retenez le mot terre car il est important dans la suite des idées que l'on va développer ici. On disait donc que les bases de la chimie furent posées à ce niveau-là parce qu'on avait la conception du Khnoum qui construisez avec l'argile l'homme, hein, ou des vases, parce que Noum, ce dieu-là, il est souvent représenté avec des vases partout. Et très très tôt dans l'histoire de l'Égypte, déjà vers le dans le dynastique et le prédynastique, ou même vers la quatrième dynastie, donc on est au niveau des débuts de l'Égypte ancienne, eh ben, on trouve des vases extrêmement durs. Voilà pourquoi les gens se posent la question, mais peut-être qu'il y a des technologies secrètes qu'on connaît pas, ou des extraterrestres sont venus pour enseigner à ces gens, ce qui sont des bêtises évidemment, parce qu'on retrouve des vases extrêmement durs. La seule manière de sculpter ces vases, c'est au laser. On peut pas sculpter ces vases, c'est trop dur, c'est du granit, c'est de la diorite. Ce sont des pierres qui sont extrêmement dures, et avec la technologie moderne, il faut de l'acier, il faut des machines, il faut des lasers pour le faire. Mais ces gens n'avaient pas ça. Comment ont-ils pu tailler dans de la pierre aussi dure? Alors ça pose problème, parce qu'on peut pas tailler vraiment. C'est vrai qu'il y a des expériences qui ont démontré qu'avec une scie et du sable, eh bien on arrive à quand même à entailler le granit, mais ça demande du temps, et quand on voit la pyramide, on voit son volume, eh bien s'il a fallu tailler tout ça à cette manière-là, eh ben même si on dit 20 ans, eh ben les données ne collent pas. Je pense qu'il y a beaucoup de documentaires sur la pyramide, sur les grandes pyramides, qui vous donneront ces informations, où on voit que le travail est titanesque, il est, permettez-moi l'expression, pharaonique. Donc voilà pourquoi il y a un chercheur qu'on appelle le professeur David Davidovits, qui au contraire, Joseph Davidovits, qui est un professeur franco-israélien, je pense, expert en chimie, docteur en chimie, archéologue, égyptologue aussi, qui a trouvé en fait une formule qui permettait au fait de fabriquer des vases de manière artificielle, ou plutôt de la pierre artificielle qu'on appelle pierre agglomérée. Ce professeur est docteur en chimie et expert en ce qu'on appelle les géopolymères, c'est-à-dire cette science-là qui permet au fait de construire de la pierre artificielle. Et les Égyptiens avaient trouvé une formule pour au fait faire de la pierre artificielle. Alors, nous devons bien nous mettre en place que nous parlons d'une civilisation qui a, au début de l'Égypte ancienne, qui se forme au niveau de 3200 avant Jésus-Christ, mais dont les balbutiements peuvent remonter à moins 75 000 ans avant Jésus-Christ, avec par exemple le signe de la croix Ankh au niveau de Mpumalanga en Afrique du Sud. Donc de moins 75 000 ans avant Jésus-Christ à 3200 ans, il y a des millénaires et des millénaires où l'homme a expérimenté, il a regardé, il a observé la nature et il a créé des choses. Nous ne devons pas penser tomber sur le niveau où nous pensons que ces gens étaient bêtes, étaient stupides, ne vivaient que de peau de bête et ils n'étaient pas intelligents et que nous sommes supérieurs à eux. Mais nous devons comprendre que ces gens ont eu tout le temps de développer les sciences et les mathématiques, parce que nous pouvons bien voir que il y a ces balbutiements au niveau de Shango, au niveau de Mpumalanga, et que il y a des traces d'astronomie. Donc ces gens ont simplement observé l'infiniment grand dans le ciel, dans la carte du ciel, dans l'espace, mais aussi l'infiniment petit au niveau de la chimie, c'est-à-dire en manipulant la nature, c'est-à-dire en étudiant la matière et en sachant comment la manipuler. Donc ces gens étaient extrêmement intelligents, parce que lorsqu'on voit la pyramide, eh ben, je vais pas entrer dans les détails, ben c'est tout simplement pharaonique au niveau scientifique, mécanique et mathématique. C'est du jamais vu, c'est incroyable. Même refaire l'opération maintenant, c'est titanesque. Même les ingénieurs disent qu'ils savent pas, ils savent pas. Donc, mais les anciens Africains avaient compris, ils avaient trouvé le moyen, parce qu'ils étaient intéressés à la chimie, ils étaient intéressés à l'infiniment grand, c'est-à-dire au niveau des étoiles, mais aussi à l'infiniment petit au niveau de la chimie, parce que la grande pyramide, ça rassemble les deux, c'est le ciel et la terre. Donc c'est-à-dire on comprend la science de la terre, la géologie, parce que pour comprendre les géopolymères, faut être fort en géologie, et pour comprendre les étoiles, faut être fort en astronomie. Et bien ils ont mis les deux, et la grande pyramide, ça symbolise les deux, ça symbolise au fait la réunion du ciel et de la terre. Ça représente en fait l'étoile qui brille, Sirius, qui représente en fait Isis, ça représente en fait les rayons solaires en fait qui se matérialisent par un triangle. La triangulation qu'on a déjà vue au niveau de Blombos en Afrique du Sud, plus de moins 80 000 ans avant que la grande pyramide soit là. Donc la pensée était déjà là, ce n'est pas venu d'ailleurs, ce n'est pas venu du Moyen-Orient, mais c'est venu du fin fond de l'Afrique. Même la structure pyramidale, ça vient du fin fond de l'Afrique, on peut le voir, c'est documenté, c'est attesté, ça a été pétrifié dans la pierre par les anciens. Donc, nous disons donc que Khnoum, nous revenons à lui, qui est le dieu potier. Ça me rappelle quelqu'un, le grand potier, le divin potier. Nous y reviendrons, ne vous inquiétez pas. Alors, on dit donc que ce dieu-là, à tête de bélier, on dit donc qu'il s'appelle Khnoum, et c'est le nom que Khufu, le fondateur de la grande pyramide, se donnera à lui-même. Donc, ça veut dire qu'il était dans cette pensée-là, d'être fidèle à cette idée de ce que ce dieu-là faisait, c'est-à-dire que fabriquer la pierre à partir du moule, fabriquer l'homme à partir du moule, à partir de la terre, de pétrifier, de pétrifier les choses. Donc on est dans cette vision de pétrifier la matière, de transformer la pierre, de former la pierre, de fabriquer la pierre. D'où la notion de pierre moulue que nous avons dans le documentaire Grande Pyramide K 2019 que vous pouvez trouver sur YouTube. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, eh bien nous allons apporter certaines lumières pour vous expliquer au fait pourquoi est-ce que ces gens ont utilisé la pierre, parce que ça on n'en parle pas dans ce documentaire là. Tout est lié à Khnoum, parce que c'est un dieu potier qui fabrique des vases et qui a fait l'homme avec l'argile. Donc on a cette même idée de construire avec la pierre. Et si vous allez même très loin, même dans les récits bibliques, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait le son des métaux dans le temple? Parce que le temple devait être construit sans qu'il y ait de bruit de métaux. Donc il ne fallait pas tailler la pierre, donc la pierre devait être moulue. Et nous savons que même si le mur dit des lamentations, pour certains, d'après certaines sources, est un mur qui ne serait pas de l'ancien temple, mais qui serait romain. Sur les fondations, on trouve des gros blocs, parfois même supérieurs à ceux de la grande pyramide. Eh bien, on savait que les Romains avaient ce qu'on appelait le béton romain. Ils avaient découvert le béton, mais en réalité, ils n'avaient pas découvert. C'est une science qu'ils ont pris en Égypte lorsqu'ils ont envahi Alexandrie sous Cléopâtre qui était grec. Et les Romains ont pris ce qui était emmagasiné dans les temples égyptiens et ils l'ont développé par eux-mêmes. Donc ils n'ont pas inventé ça, ils ont pris ça en Égypte. Donc ces formules étaient déjà connues et nous savons que même très tard dans l'histoire de l'Égypte, on a ce qu'on appelle la stèle d'Irtisène. Je répète, la stèle d'Irtisène, qui est une stèle qui au fait est la stèle sur laquelle le professeur Joseph Davidovits s'était inspiré pour au fait trouver la formule de la pierre agglomérée. Il avait trouvé la stèle, il a traduit la stèle qui était écrite en hiéroglyphe, il l'a traduite et il a trouvé que ça, c'était une stèle qui racontait un mélange chimique pour former une brique. Quand il a essayé, il a traduit, il a mélangé, et bien ça donnait une pierre. Donc, les anciens égyptiens connaissaient la chimie, c'est écrit sur leur stèle, c'est écrit qu'ils mélangeaient, qu'ils faisaient des expériences chimiques. Or, le premier qui a commencé à faire ce genre d'expérience, c'est documenté, c'est l'homme qu'on appelle Imhotep. Imhotep aussi qui était un grand savant noir de l'Égypte pharaonique. Donc, tous les principes qui vont nous amener à la grande pyramide, que ce soit le nom de Khufu, que ce soit le nom du dieu qu'il porte pour l'inspirer, que ce soit l'un des grands concepteurs de cette science-là, à savoir Imhotep, eh bien tout nous renvoie toujours à l'Afrique ancienne, à l'Afrique noire, de par sa histoire, de par sa culture, de par ses pratiques, de par ses croyances, de par ce que ces gens faisaient. Donc, nous arrêtons que la base de la chimie donc furent posées par Imhotep et s'en inspira pour bâtir la première pyramide. Donc je suis en train de travailler sur un script que j'ai écrit et de parler à voix libre donc pour en fait avoir tous les données, donc ces informations que je vous présente sont issues de ma propre recherche. Donc Snefru donc fut l'architecte d'un plan génial de matérialiser une pyramide encore plus ambitieuse. Car c'est Snefru, c'est le papa de Khéops, hein, ou Khufu, Nkouvu. On va l'appeler en africain Nkouvu, hein, les Africains. On va l'appeler Nkouvu, hein. Donc Nkouvu, c'est lui qui a créé qui a construit la grande pyramide. Donc on a oublié Khufu, Khéops, tout ça. On l'appelle Nkouvu. Donc Nkouvu, son père, c'était Sneferu. Bon, je cherche encore la traduction de son nom en chez nous. Son père s'appelait Sneferu. Sneferu, c'est lui qui a commencé je crois qu'il avait terminé la pyramide de son père, Ouni, qui était qu'on appelle la pyramide je crois la pyramide rhomboïdale si je ne m'abuse. Donc il a construit trois pyramides. Donc il a fini la pyramide de son père d'abord, ensuite il a créé une pyramide qui s'était effondrée donc il a fait la pyramide de son père qui s'était effondrée malheureusement. Il a fait la pyramide je crois rhomboïdale, ensuite il a fait la pyramide rouge, une pyramide pointue. Et ensuite, son fils viendra faire la grande pyramide. Donc, Khéops, c'est celui qui a commencé à perfectionner la grande pyramide. La grande pyramide a commencé avec le pharaon qu'on appelle Djoser, si je ne m'abuse, sur la 3e ou 4e dynastie. Alors, Djoser, avec son pharaon, son premier ministre ou grand vizir qui s'appelait Imhotep. Imhotep est le premier à faire la pyramide sur ce qu'on appelle un mastaba. Alors, après Imhotep, l'architecte, Snefru a commencé à construire d'autres pyramides. Ouni en a construit une et puis Sneferu aussi en a construit une et Sneferu a vraiment perfectionné vraiment la pyramide. C'est un pharaon infatigable. Vous devez l'imaginer vraiment comme un homme qui a un peu le mental de Steve Jobs. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque vous regardez le nom de Sneferu, Sneferu ça veut dire héros m'a perfectionné. vous dire. C'est-à-dire que le soleil m'a rendu parfait, m'a perfectionné. Donc, c'était un perfectionniste. Il n'était jamais satisfait de ce qu'il faisait. Voilà pourquoi il faisait pyramide après pyramide. Quand ça échoue, il n'abandonne pas, il continue. Mais voilà pourquoi il avait fait une pyramide d'abord qui était rhomboïdale, il n'en était pas satisfait. Ensuite, il en a fait. Donc, il a fini celle de son père qui s'était, je crois, écroulée. Ensuite, il a fait une qui était devenue rhomboïdale. Après, il a fait une qui était pointue. Donc, c'est lui vraiment qui a achevé la forme parfaite de la pyramide pointue en toujours poussant ses architectes à se dépasser, à se surpasser. Donc, et retenez bien le mot Snéfrou parce que ça va nous aider pour comprendre la suite. Donc, son fils, après Nkouvou, viendra finir... achevé avec la grande pyramide, le fils de Khufu qui s'appelle Menkaure va venir faire la deuxième pyramide, une deuxième pyramide pour achever le complexe, et son autre fils va encore en faire une. Voilà pourquoi il y a trois grandes pyramides qui se suivent là. Donc nous avons donc ce modèle là. Donc Snéfrou donc construit la grande pyramide mais surtout va préparer le terrain pour son fils Khufu. Ce dernier va s'aligner donc sur Khnoum, à savoir Khufu, son frère, son fils, Nkouvou, le créateur par l'argile, maître tellurique et géologique par excellence, essence des géopolymères pour bâtir la grande pyramide selon la chimie de la pierre agglomérée. Alors, Khnoum est lié à la faïence, à ce qui est moulu. Hein? En lingala, mele veut dire poterie ou faïence. Meme veut dire bélier, mouton, agneau. Mbembe veut dire la prière, la supplication en lingala. Khnoum a une tête de or, Khnoum a une tête de bélier, de ovin ou de bovin. Kumba signifie diriger, conduire en lingala. Donc vous voyez que dans ces différents mots, mbele, meme, mbembe, kumba, donc tous ces mots-là renvoient au fait justement à un dieu à tête de bélier qui façonne les choses. Et c'est resté jusque dans nos langues à présent. Comme je le répète encore, on dit en lingala, on dit knum renvoie, est lié à la faïence, à ce qui est moulu. En lingala, mbele veut dire poterie ou faïence. Meme veut dire bélier, mouton, agneau. Mbembe veut dire la prière, la supplication en lingala. Khnoum a une tête de bélier. Nkumba veut dire diriger, conduire en lingala. Donc vous voyez que les mêmes mots, les mêmes synonymes sont restés pour dire tout ce qui est poterie, tout ce qui est bélier, tout ce qui est prière, supplication. C'est le même univers qu'on retrouve en Égypte, c'est le même univers qu'on retrouve au Congo, Kinshasa, en RDC, en Afrique centrale, pour être plus large. Alors, l'Égypte ancienne était constituée de plusieurs tribus ou stocks génétiques, bien que l'Afrique noire avait une diversité intéressante. Alors, pour Quentin Leplat, qui est un expert en biomécanique, Quentin Leplat est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'effort humain parce qu'il commente souvent les Tours de France. Alors, il est vraiment passionné par l'Égypte ancienne, surtout par les efforts que ces gens se faisaient, parce que lui, il est expert dans les efforts en biomécanique, il est diplômé de ça, et il est obsédé par le fait au fait de savoir comment l'homme se dépasse dans l'effort, parce qu'il est il suit beaucoup le Tour de France, comment les gens se dépassent ces choses. Et on sait souvent que les gens se dopent dans le Tour de France parce qu'on sait que le corps a ses limites, et très souvent quand les gens font des certaines performances, comme le fameux Armstrong, le gars qui avait gagné plusieurs fois le Tour de France, l'américain, le texan là, mais qui avait avoué qu'il s'était dopé. Eh ben, quant à Leplat, il est l'un de ces personnes qui s'intéressent à ces choses pour voir en fait quelles sont les limites de l'homme et où l'homme s'arrête. Et ce qui le bluffe, ce monsieur, c'est les performances des Égyptiens. Parce que quand on voit la grande pyramide et qu'on essaie d'évaluer la quantité énergétique qu'il faut pour finir le bâtiment, eh ben, ça nous laisse tout simplement complètement bouche bée. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde ça dans le contexte sur le point de vue européen, on comprend pas. On comprend pas. Le seul moyen de le comprendre, c'est d'être dans le paradigme africain. C'est là où on va comprendre les choses. Et là, accrochez vos ceintures parce que les révélations vont maintenant arriver maintenant. Alors, attrapez le popcorn, c'est parti. Alors, pour Quentin Leplat, expert en biomécanique, les bâtisseurs de la grande pyramide de Gizeh auraient dépensé environ 6000 kilocalories par personne, soit 10 allers-retours pour déplacer les tonnes de blocs. 100 km seraient parcourus chaque jour dans ces conditions. Imaginez, surtout avec le soleil. Donc, presque 3 fois un marathon de 42 km par jour. Vous imaginez. Quel peuple libre et rémunéré aurait pu être suffisamment capable et motivé spirituellement, de par sa culture et ses dispositions physiques et biomécaniques, pour attaquer ce chantier pharaonique? Tiens, 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 je me pose la même question. Ne vous inquiétez pas, on a la réponse. Alors, les études récentes ont démontré... Alors... C'est là où je vais essayer de laisser le suspense un peu. Je vais revenir là-dessus et dire ceci. Alors, tout commença avec Ibrahim Kipemboy Hussein, un Kenyan qui inaugura la dominance africaine sur le marathon de Boston en 1988. D'entrée de jeu, Kipemboy explose les records en affichant un insolent 2h, 8 minutes et 43 secondes. Son prédécesseur japonais avec deux victoires au compteur affichait seulement 2h, 11 minutes et 50 secondes en 1987. Le record était cependant détenu par l'Australien Robert de Castella avec 2h, 7 minutes et 51 secondes. Depuis presque 100 ans, aucun Africain n'avait participé au marathon de Boston jusqu'en 1987. C'est là où les Africains ont commencé. Avant 1987, il n'y avait pas d'Africains, c'était que des étrangers. Mais en 1987, tout a commencé avec les Africains qui ont inauguré, qui sont entrés dans le marathon. Pourtant, les Jeux olympiques de 1960 et 1964 verront l'Éthiopien Abebe Bikila gagner deux fois à tour de rôle la médaille d'or au marathon. Record toujours détenu à ce jour. Abebe Bikila fut un officier de la garde impériale de l'empereur Haïlé Selassie, que vous connaissez très bien. À 20 ans, donc nous parlons de Abebe Bikila, à 20 ans, sa promenade de santé consistait à courir les collines éthiopiennes bordant la ville d'Addis Abeba. Il fut vite remarqué pour son endurance hors norme et secrètement entraîné par le gouvernement éthiopien pour conquérir les Jeux Olympiques d'Italie. Les relations italo-éthiopiennes furent complexes, on le sait. Mussolini occupa l'Éthiopie et fit exiler Haïlé Selassie en 1936. Or, pour venger la terrible défaite italienne face au monarque éthiopien Ménélique II en 1986 à Adoua. Je répète, les relations italo-éthiopiennes furent complexes. Mussolini occupa l'Éthiopie et fit exiler Haïlé Selassie en 1938 pour venger la terrible défaite italienne face au monarque éthiopien Ménélique II en 1896 à Adoua. On sait que les Éthiopiens avaient flanqué la raclée aux Italiens avec Ménélique II en 1896 et les Italiens n'avaient jamais pardonné aux Éthiopiens. Voilà pourquoi ils étaient venus les envahir. Bon, l'Éthiopie, on dit, n'a jamais été conquis, mais a été toutefois occupée. Mais c'est pas très juste parce que bien avant ça, l'Éthiopie a quand même été conquis quelque part avec l'Empire Ottoman, tout ça. Il y a des histoires, donc c'est pas toujours tel qu'on l'imagine. Mais bon, on y reviendra. Alors, les Jeux italiens de 1960 étaient l'occasion de réitérer l'exploit de Ménélique II sur le terrain sportif. Donc, lorsque Haïlé Selassie est revenu au pouvoir après l'exil, il a repris les rênes du pays. Eh ben, il voulait lancer son pays dans les rênes, dans la voie internationale, c'est-à-dire en participant aux Jeux olympiques. Et il savait que les Italiens étaient organisateurs. Alors, il voulait encore infliger une raclée à ce pays. Alors, voilà pourquoi il préparait leur poulain pour participer à ces jeux olympiques là. Alors, figurez son exil. Alors, Haïlé Selassie fut probablement inspiré par une autre figure. Donc, on disait que Haïlé Selassie fut donc probablement inspiré par une autre figure lors de son exil en 1936. En effet, Haïlé Selassie pendant son exil, c'est 1936. Et nous savons qu'en 1936, il y a les Jeux olympiques, je pense, de Berlin. 4 ans avant la Deuxième Guerre mondiale, les 4 médailles d'or de l'athlète afro-américain Jesse Owens aux Jeux Olympiques de 1936 ont été une première dans le monde post-esclavagiste. La race aryenne qu'Hitler et le dictateur italien Mussolini supportaient. La race aryenne admise comme supérieure perdra contre Owens. Triompher à Rome était donc une affaire personnelle pour Haïlé Selassie. Abebe Bikila comme Jesse Owens devait vaincre. Quelques minutes après avoir battu le record de l'époque pieds nus, je répète, Abebe Bikila a battu le record des Jeux Olympiques pieds nus. Quand les autres avaient les équipements, les autres avaient les chaussures, lui a fait ça pieds nus. Parce que déjà, quand il était petit, il courait pieds nus. Donc, il était plus à l'aise en étant pieds nus. Donc, c'est assez étonnant. Abebe Bikila dira nonchalamment quand il a gagné aux Jeux Olympiques, la première fois, pieds nus. Eh bien, on dit, Abebe Bikila dira nonchalamment en faisant des étirements qu'il aurait encore pu tenir 15 km de course. Ses adversaires épuisés n'en revenaient pas. Étonnant, ce Abebe Bikila. Alors, les anciens bâtisseurs des pyramides ne disposaient au vu des fresques murales que d'un accoutrement sommaire. Ils n'avaient que leurs pieds nus. Ces gens étaient pieds nus, hein. Parce que quand il faut tirer ces gros blocs, comme dit Quentin Le Plat, eh bien, il faut aussi tenir compte de la force que vous mettez sur les pieds. Quelle est cette force que vous avez sur les pieds pour tirer ces gros blocs, ces énormes blocs là, ces obélisques, pour les ramener jusque à la grande pyramide? Évidemment, si les pierres sont taillées. Il y en a, comme j'ai dit, il y en a qui sont taillées, des gros blocs, il y en a qui sont moulues, il y a les deux. Alors, la force qu'ils exercent sur les pieds là, elle est extraordinaire. Qui est ce peuple là qui a cette force là sur ses pieds pour pouvoir faire un tel effort physique? S'interroge Quentin Le Plat. Je pense que vous avez déjà la réponse par rapport à l'exemple d'en haut. Mais on va encore approfondir. On dit donc, les anciens Égyptiens, ils n'avaient que leurs pieds nus et mains libres pour assujettir le plateau de Gizeh et bâtir la grande pyramide de Gizeh. L'exploit pourtant fait toujours débat. Alors, comment les hommes à pied nus, sous ces conditions, ont-ils pu travailler? Je ne cite même pas le soleil. Abbé Ubiki là, gagna 2 Jeux Olympiques consécutifs. Tenez-vous bien, les pieds nus. Les 2 Jeux Olympiques qu'il a gagné, il a gagné ça, les pieds nus. Alors, tandis que ses adversaires aient l'avantage des chaussures de sport coûteuses, il gagna les jeux pieds nus 2 fois de suite en 1960 et 1964. Exploit encore inégalé à ce jour. Les 20 dernières années et au-delà, le marathon annuel de Boston a été gagné principalement par des Kenyans et des Éthiopiens. 3 sur 20 seulement ont été gagnés par des non-Africains durant les 20 dernières compétitions. Les 30 dernières années, les Kenyans, donc de la tribu qu'on appelle Nandi, ont dominé le marathon de Boston. De 2009 à 2019, le marathon de New York est dominé par les Kenyans et les Éthiopiens. Le seul non-Africain qui gagna le marathon de New York fut en 2009 durant cette période. Pour les Jeux Olympiques, les médailles d'or furent africaines depuis 1996, à l'exception de celle de 2004. Les autres médailles furent cependant, vous l'aurez deviné, kenyanes, mais aussi éthiopiennes, sud-africaines et ougandaises. Chez les femmes, Fatuma Roba inaugure la contre-attaque africaine au marathon olympique de 1996 et le marathon de Boston de 1997. Éthiopienne, elle gagnera 3 fois de suite le précédent marathon et la médaille d'or en 1996. De 1997 à 2019, seules 3 nations ne furent pas africaines en haut du podium de bostonien. Catherine Ndereba du Kenya entre dans l'histoire comme la seule femme ayant 4 victoires au marathon de Boston. Elle est même sacrée la plus grande athlète de marathon de tous les temps par le Chicago Tribune. Donc, vous voyez que par ces données, vous voyez qui est ce peuple-là qui avait la capacité de travailler sous des conditions difficiles. Et quand je dis difficile, c'est-à-dire le travail, il n'était pas esclave. Je rappelle que le mot esclave n'existait pas en ancienne Égypte. Vous devez balayer de votre esprit et de votre crâne, de votre cerveau, de vos rêves même, qu'il y avait des esclaves en Égypte. C'est maintenu, pourquoi? Parce qu'on lit la Bible chaque dimanche et quand on y va, on nous dit, voilà, quand les Égyptiens étaient, les Israéliens étaient esclaves en Égypte. Ce n'est pas correct dans le sens où la culture égyptienne n'est pas esclavagiste. Ce n'est pas un mode de production africain. C'est un mode de production asiatique. Ça existe, le mot esclave n'existe pas en Afrique, ça n'existe pas. Même au Oumbu, non. Il y avait les captifs de guerre qu'on utilisait, même les captifs de guerre, l'enfant était libre et n'avait pas les mêmes traitements que comme dans la culture occidentale. C'est différent. Il y avait des captifs, mais il n'y avait pas d'esclaves. Au contraire, quand même, il y a ce mythe-là que les gens vendaient leurs enfants, vendaient leurs frères. Non. Pourquoi il y avait des forts surarmés? Il y avait des forts en Afrique, comme sur les Gorées. C'était justement pour capturer les gens et se défendre. Il y avait des canons. Si les gens vendaient leurs enfants et leurs frères sans état d'âme, pourquoi il y avait des forts avec des canons? Ça, je suis dans l'Afrique précoloniale, ou disons coloniale ou esclavagiste. Donc, il y avait des gens qui étaient capturés, kidnappés, ou des gens qu'on manipulait, disant que non, voilà, je vais te donner des armes si tu m'attrapes des captifs, des gens avec qui on était antagonistes. Mais dire que voilà, l'Africain a vendu son frère simplement comme ça parce qu'il mourait d'envie de vendre son frère, eh bien, ce sont des mythes qui nous ont été imposés. Et en Afrique ancienne, il y a le mot Égypte n'existe pas, ça n'existe pas. Il y a des gens qu'on prend comme travailleurs, oui, mais ça n'existe pas. Le mot esclave n'existe pas. Même la gens de la Grande Pyramide, on a démontré qu'il y avait, ça n'existait pas parce qu'ils ont été enterrés près de leur roi et ils étaient soignés. On a retrouvé leurs os, ils étaient soignés. On ne soigne pas l'esclave. Ils étaient nourris. Et il y a des textes qui montrent que les gens étaient nourris quand ils faisaient des travaux. Donc, l'épisode hébreu en Égypte, c'est quand les Juifs ont l'Égypte a été envahie par une tribu asiatique qu'on appelle les Hyksos. C'est quand eux sont arrivés, c'était après que il y a eu ceux-là. Nous y reviendrons parce que sinon ça va prendre encore beaucoup de temps. Ceux-là qui ont été mis dans des ghettos parce qu'ils étaient liés au culte de Akhenaton avec Amenophis fils d'Apou qu'on appelle Joseph qu'on a retrouvé. Ça j'en parlerai beaucoup plus tard. Mais je peux pas trop en parler sinon ça va c'est tout un sujet. Ça peut me prendre 2 heures. Mais simplement dire que non, cette culture n'existait pas. C'est une culture qui est arrivée avec les Hyksos, des Hyksos étrangers qui ont pu pratiquer ces choses, mais dans l'Égypte pharaonique antique noire, ça n'existe pas, la pratique de l'Égypte de l'esclavage. On y reviendra plus tard parce que c'est un sujet trop vaste et il faut être technique pour pouvoir en parler. Donc, ce n'étaient pas des esclaves qui ont construit la grande pyramide, mais plutôt des hommes libres. Alors, l'Égypte ancienne était constituée de plusieurs tribus au stock génétique, bien que africain noir, mais avec des diversités intéressantes, comme nous l'avons dit précédemment. Alors, nous voulons dire encore que les Kalenjins. Les Kalenjins sont une tribu africaine que l'on retrouve au niveau du Kenya. Alors, qu'est-ce que ces Kalenjins ont de si bien particulier? Eh bien, nous allons le voir tout de suite. Si je n'arrive pas à finir, je crois que je ferai une deuxième, un deuxième podcast pour pouvoir continuer. Alors, les études récentes ont démontré que la tribu Nandi, appartenant au groupe des Kalenjins du Kenya, siège du Kilimandjaro, ou la montagne de la Lune, donc l'une des probables origines de certaines tribus égyptiennes. En effet, les temples qu'on situe dans une ville qu'on appelle Edfou, les Égyptiens disent que non, nous venons du sud, guidés par notre roi, de par la montagne de la Lune. Donc ils disent que nous venons de la montagne de la Lune, nous sommes montés pour aller vers le nord. Donc nous venons de la montagne de la Lune. Or, il y a deux montagnes qui s'appellent montagne de la Lune en Afrique centrale ou en Afrique. C'est le Kilimandjaro qui veut dire montagne de la Lune et c'est le Rwenzori en RDC qui s'appelle montagne de la Lune. Et c'est pas loin du Rwenzori qu'on a retrouvé aussi ou dans l'est du Congo qu'on a retrouvé aussi l'os d'Ishango. Donc vous voyez que tous les éléments qui font la culture égyptienne, eh bien on la retrouve dans l'Afrique profonde, en Afrique centrale. Alors, donc on dit que les Kalenjins, donc la tribu appartenant donc dont les Nandi font partie et qu'on retrouve au niveau des Kenya, sont les peuples qui ont le plus gagné de marathons américains. Donc un marathon c'est combien? C'est 42 km, n'est-ce pas? Alors, je reprends ce que Quentin Leplat avait dit, cet expert en biomécanique. Il dit que pour construire la grande pyramide, il fallait dépenser 6000 kilocalories par personne, soit 10 allers-retours pour déplacer des tonnes. Des gros blocs. Et il dit, ça équivaut à 100 km par jour dans ces conditions. Donc, presque 3 fois un marathon de 42 km par jour. C'est Quentin Leplat qui parle. Un Français, expert en biomécanique et en Tour de France. Et on voit très bien ici, on dit que les peuples qui ont gagné le plus de marathons américains, c'est qui? Ce sont les Kenyans, les Nandi. Un marathon, c'est 42 km. Alors, les Nandi de la région des Grands Lacs de la RD Congo seraient issus de cette grande branche des Nandi Kalenjins du Kenya. Donc les Nandi qu'on a au Congo, chez nous les Nandi, ce qu'on appelle les Nandi, eux aussi sont issus de cette tribu des Kalenjins. Donc hein, qui vivent dans les montagnes très haut et qui ont cette capacité endurante. Donc on a ça aussi au Congo, au niveau du Congo. Donc les Nandi sont liés aux Nandi, liés au grand groupe des Kalenjins. Ils sont séparés avec les migrations de l'histoire. Alors, leur endurance est phénoménale quand on pense au Nandi. Seul un Américain, Ryan Hall, battit le record de 2h, 5 minutes et 0 secondes du marathon américain, tandis que plusieurs Nandi athlètes l'ont fait plus d'une trentaine de fois. Donc, l'Américain qui a le record, c'est un blanc, il a 2h et 5 minutes, alors que les Kalenjins, les Nandi, ont battu ce record plus d'une trentaine de fois, alors qu'un Américain l'a seulement fait une fois. Voilà pourquoi vous pouvez voir un homme comme Quentin Leplat s'étonner quand il voit ce qui se passe. Il s'étonne. Ouais. La seule raison pour laquelle on ne voit pas encore des Noirs qui gagnent le Tour de France, c'est parce qu'on s'intéresse pas à ça. Prenez-moi un Kalenjin ou un Nandi, mettez-le, donnez-lui un vélo depuis qu'il est enfant, et ben moi je vous assure qu'ils vont gagner le Tour de France. Hein. Mais bon, bref, ça c'est juste une parenthèse. Donc vous voyez donc l'énergie que l'on a. Voilà pourquoi quand elle le plat, il s'étonne, il se comprend pas. Mais comment est-ce qu'ils ont pu faire? Mais quand regardez les Kenyans, et ben vous comprenez. Quand vous regardez l'Afrique, vous comprenez. C'est simple, c'est normal. Donc quand on regarde pas l'Afrique, l'Égypte avec l'Afrique, on comprend pas. Mais quand on regarde avec l'Afrique, eh bien tout devient clair et simple. On n'a pas imaginé des extraterrestres ou des gens qui viennent de je ne sais pas moi de quel film de science-fiction. Donc nous passons. Lawrence Chenero est le vainqueur du marathon de Boston en 2019 avec 2h 7 minutes et 57 secondes. Vous voyez, 2h 7 minutes et 57 secondes. Donc vous voyez que les Africains ont toujours eu la facilité de pouvoir battre ces records. Donc, et on a vu tout à l'heure que plutôt que les records ont été battus plusieurs fois par les Africains, par les Kenyans qui ont eu à gagner et à faire ces choses. Donc, il y a encore quelques d'autres données que je vais donner ici au niveau des performances de ces Kenyans là. Donc, faut dire que aussi que la dernière performance en date a été faite par un Kenyan en moins de deux heures parce qu'on disait que les Kenyans plutôt le marathon ne pouvait pas être battu fait en moins de 2 heures. Mais pourtant il y a dernièrement, je crois cette année en 2019, il y a un Kenyan qui a battu ce record là. On dit le record man du marathon actuel est encore, c'est dans le texte que j'ai écrit. Alors, le record man du marathon actuel est encore un Kenyan qui se nomme Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge. il franchit la ligne d'arrivée sous les 1h59 minutes et 40 secondes à 34 ans, détruisant ainsi le mythe de l'impossible. Parce qu'on avait dit qu'on ne peut pas faire un marathon de 42 km en moins de 2 heures. Un marathon, c'est 2 heures au moins pour le gagner. On ne peut pas aller moins en dessous parce que les capacités humaines ne le permettent pas. Eh bien, non. Eliud Kipchoge l'a fait en 1h59 minutes et 40 secondes. C'est le record mondial et historique. Personne n'a jamais fait un marathon en moins de 2 heures. Ce Kenyan-là l'a fait. 1h59 minutes et 40 secondes. Donc, quand vous avez toutes ces données, les données biomécaniques que j'avais promis, eh bien, vous voyez que, eh bien, les bâtisseurs des grandes pyramides, eh bien, oui, ce sont ces Africains qui sont en Afrique centrale. Eh bien, oui, c'est dans cette région des Grands Lacs d'où l'homme est parti. Que c'est dans leur manière de voir le monde, leur spiritualité. Knoum, hein, le dieu potier qui crée l'homme par l'argile, hein, la chimie des géopolymères, tout ça, qui a permis de mouler les pierres. Et dans la même la littérature biblique que nous connaissons, l'homme a été fait en le prenant de la terre, en le moulant. Hein, et on sait qu'on appelle qui vous savez, le divin potier. On sait que ce dieu-là, Knoum, chez les Égyptiens, il lui met une tête de bélier. Mais on sait que dans les cultures les plus lointaines, bibliques, tout est lié au bélier, tout est lié aux offrandes que l'on donne. Et l'agneau, vous connaissez l'agneau immolé qui a beaucoup d'yeux, comme Osiris. Bon, bref, on y reviendra. Mais vous pouvez voir que les racines de cette grande pyramide, eh bien, se trouvent en Afrique. Donc, c'était ce que je voulais vous donner, le scoop. Quelles sont les données biomécaniques de ce peuple-là? Dans quelle pensée, dans quel état d'esprit ils étaient? Nous avons parlé de ça. Quelle est la technologie qu'ils ont utilisée pour le faire? On a parlé de ça. Quelles étaient les capacités physiques qu'ils avaient? On l'a donné parce que là-bas, en Égypte, il fait extrêmement chaud. Alors, plus de 45 degrés. Imaginez des Blancs travaillant sous ce climat-là. Ça ne serait pas possible parce qu'il y aurait des cancers, tout ça. Il fallait des Noirs, justement, à peau très sombre qui pouvaient le faire. Et enfin, dernier élément, c'est la pierre de Palerme. Je vous ai dit que nous ne devons pas oublier le nom de Sneferu. Sneferu qui est le papa de Khufu, d'un Khufu. Sneferu veut dire celui qui m'a perfectionné, donc le dieu qui m'a perfectionné, c'est un perfectionniste. Ce monsieur-là dit que dans la pierre de Palerme, il y a une pierre qu'on appelle la pierre de Palerme, que vous pouvez vérifier. Il dit qu'il avait fait des expéditions au niveau du pays de Punt et de la Libye avant de construire ces pyramides. Parce que là, il avait ramené ces populations-là en Égypte. Ce n'étaient pas des esclaves, mais des travailleurs, parce qu'il n'y avait pas le mot esclave. Le mot esclave n'existe pas. Il avait fait des campagnes, il avait ramené des gens. Donc, il y avait des grosses déportations. Plus de environ 15 000 personnes qu'il avait ramenées. Plus de 11 000 en Libye, ou plus de 7 000 au niveau du pays de Punt. Donc, c'est-à-dire les pays qu'on voit comme le Kenya, tout ça là, le Congo, tout ça. Et au niveau de la Libye, il ne faut pas imaginer des Arabes, mais au niveau de la Libye, il y avait cette population ancienne là, dont Robert Bovell parle, qui était noire. Il y avait beaucoup de noirs qui habitaient là, ce qu'on appelle les Tamekos. Les Tamekos, parce qu'il y a des Tamekos blancs et des Tamekos noirs. Les Tamekos blancs sont arrivés plus tard à la 18e dynastie quand Toutmosis III les a ramenés. Mais d'abord, à l'origine, à la 4e dynastie, nous avions que les noirs qui habitaient là-bas sont appelés des Tamekos. Ou les Tamekos. C'est ces populations-là que Sneferu va ramener en Égypte, curieusement pour travailler sur les pyramides. Et justement, nous voyons que ces populations-là, leurs caractéristiques physiques sont les caractéristiques des Nandis, parce qu'ils étaient partis prendre des populations au niveau du sud pour commencer à bâtir la pyramide. Je répète, ce n'étaient pas des esclaves. Dans les textes, souvent, les Égyptiens aiment se montrer en conquérant, dire que non, on est parti là-bas, on a pris des gens, on a pris des captifs, tout ça. Mais pourquoi les prendre des prisonniers, plus de 15 000 personnes à 20 000 personnes, prendre ces gens et venir les mettre en Égypte? Mais si ce sont des captifs, pourquoi ne pas les massacrer? Pourquoi ne pas les tuer? Pourquoi se donner la peine de les nourrir encore? Et en Égypte, on n'a pas retrouvé de prison. Pourquoi se donner la peine de les nourrir, tout ça là? Il n'y a pas d'esclaves, comme on l'a dit. Non, c'était des gens qui étaient partis prendre pour amener chez lui, insérer dans en Égypte, devenir des Égyptiens et puis commencer à travailler, parce qu'on a vu qu'il n'y a pas de système d'esclavage où on fouette des gens, où on fait travailler des gens de force. Donc, la pierre de Palerme nous montre que Sneferu était parti prendre des travailleurs comme les Tamekos, comme les gens du pays de Punt, du pays des dieux, donc comme des Nandis, comme des Kalédjins, était parti les prendre et les a amenés en Égypte, et le travail de ces pyramides ont commencé. Et plus tard, ces gens ont eu des enfants et c'est eux qui ont aussi construit la grande pyramide de Gizeh. Donc on a les données historiques, les données biomécaniques, les données chimiques, les données religieuses qui nous démontrent que les anciens Égyptiens qui ont bâti les grandes pyramides sont noirs. Merci beaucoup. À la prochaine.